Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal. C'est le jour 7 du Festival du Nouveau Cinéma. Mon nom est Paul Landreau et je suis avec mon collègue
Pascal Plante.
Fait qu'on a pris une petite journée de congé hier pour l'Action de grâce. On en a profité aussi pour voir des films un peu, de se reposer. Et en fait, on va revenir sur les deux derniers jours. Mais avant, on va vous donner nos suggestions quotidiennes de ce qui se passe aujourd'hui au festival. Mm-hmm. J'encouragerais les gens à aller au quartier général à chaque après-midi à partir de 4 heures. Le festival organise vraiment des rencontres avec les cinéastes qui sont présents. Donc, c'est vraiment une façon conviviale et facile d'aller voir des réalisateurs, aller les entendre parler, peut-être aller leur poser des questions si vous avez aimé un de leurs films. Donc, vous pouvez voir aussi sur la liste des invités sur le site du Nouveau Cinéma. Mm-hmm. Donc ça c'est une vraiment belle opportunité en fait parce que c'est très rare, tu sais, comme là Quentin Dupieux il est en ville, c'était hier son film Wrong Cops, donc si vous l'avez vu ou que vous allez y jaser, c'est l'occasion ou jamais. Sinon à l'ancienne Ciné-Robotech de l'ONF, qui est maintenant le pavillon Judith Jasmin, qui appartient maintenant à l'UQAM, c'est à partir de 2h45 le film fleuve As I Was Moving Ahead, Occasionally I Saw Brief Glimpse of Beauty de ouais, Jonas Mekas.
Ouais, c'est ça, le gros film de Jonas Mekas qui mélange un peu des home vidéos avec. C'est une façon de concevoir le cinéma qui est vraiment différente. En même temps, j'en parlerai pas plus que ça parce que je l'ai pas vu, j'ai seulement entendu parler, je connais sa réputation mm-hmm. à Jonas Mekas qui avait quand même fait un speech d'ouverture mémorable hein, à la soirée de. Ouais. À la soirée. Je pense que ça a même suscité controverse. Est-ce qu'on peut dire le mot controverse?
Ben, un petit malaise. Du moins, là.
Du moins. Ouais. Ben, en passant, un peu, là, il y a une nouvelle. Là, le Festival du Nouveau Cinéma, ils ont un film surprise qui va être samedi le 19.
C'est samedi au Cinéma Excentriste. En fait, ils ont annoncé qu'il allait avoir une projection de Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée. Je pense avec une projection très courue, d'après moi, les billets, ça va se vendre aujourd'hui. Là. Ouais, c'est ça. Alors, si ça vous intéresse, allez tout de suite vous procurer un billet.
C'est ça, le film de Jean-Marc Vallée qu'il a fait aux États-Unis avec très peu d'argent, mais peu d'argent entre gros guillemets. On parle de peu d'argent dans un système américain. Ouais. Puis le film avait fait vraiment un gros remous au TIFF à Toronto. Puis c'est vraiment une grande chance qu'on puisse l'avoir au FNC pour le samedi prochain.
Ouais, et c'est à 1h, Alexandrice.
Ouais. Sinon, aujourd'hui, il y a encore l'étrange couleur des larmes de ton corps à 7h45. On n'en reviendra pas. Je pense que moi, c'est rendu un fait établi que j'ai pas vraiment aimé ça, puis que toi, Paul, tu l'as aimé. Mais comme tu as dit, je pense que c'est pas un film qu'on recommande à tout le monde non plus. Donc, c'est peut-être un film à aller voir, mais en sachant dans quoi on s'embarque. Mm-hmm. Sinon, il y a le programme Fantasmagorie 3D aussi, si vous voulez aller voir des courts-métrages. Programme que tu as vu, Paul, tu en avais déjà parlé. Puis, écoute, moi, pour aujourd'hui, je t'avoue que c'est ça. Je pense que hier, ils ont vraiment mis le paquet. Ben, en fait, dans les deux derniers jours, hein, ils ont vraiment mis le paquet aussi avec l'Action de grâce. On peut revenir sur nos coups de cœur. Moi, écoute, bon, j'ai eu la chance de voir deux films que j'attendais dès Cannes, en fait, dès le moment où je lisais un peu de loin, je regardais de loin qu'est-ce qui se passait au Festival de Cannes. Et on parle bien sûr du film de Gia Zanke, A Touch of Sin, et aussi La Grande Bellezza, que j'ai eu la chance de voir hier à l'Impérial. On va y aller une chose à la fois. En fait, The Touch of Sin, c'était dimanche soir à l'Impérial. Un film de Gia Zanke qui change de registre cette fois-ci. C'est quatre chroniques de violence. Donc, c'est très vaste. Mais donc Gia Zanke qui a vraiment beaucoup de préoccupations sociales. Hein, il parle beaucoup de... Sans l'attaquer de front jamais, sauf peut-être dans ses documentaires, mais il parle de réalité contemporaine chinoise. Mm-hmm. Et dans A Touch of Sin, oui, on parle de... Donc, sin, donc de péché... j'oserais dire, mais le film va ailleurs. Le film parle aussi de l'identité. Qu'est-ce que l'identité chinoise aujourd'hui dans un monde de globalisation? Et puis, ce que je trouve que le film fait très, très bien, c'est d'opposer vraiment, il y a une grande dichotomie entre la culture occidentale et la culture chinoise, mais traditionnelle. T'sais. Ça se voit même jusque dans la bande-son. Écoute, tu vas avoir une chanson pop occidentale mélangée avec de l'opéra de Pékin. Puis à tous les niveaux, je veux dire, t'as un personnage qui va avoir une tuque avec les Bulls de Chicago, là, t'sais, l'équipe de basketball américaine. Puis le film commence avec une explosion, je veux dire. T'sais. C'est Gia Zanke qui veut comme lancer une pointe à Michael Bay ou je sais pas trop, mais tout le film joue comme ça. Puis c'est un film vraiment sur l'identité et sur donc, le manque d'identité. Et donc, un manque d'identité collectif fait en sorte que les gens, je crois qu'il n'y a pas de sentiment d'appartenance au pays. Et donc, en fait, chaque personnage est poussé à bout, la société les pousse à bout, et ultimement, ces quatre chroniques-là en font que s'il y a des outbursts de violence justifiés, mais pas intellectualisé. C'est juste, ça arrive. C'est un film quand même de 2h15 qui, Miyazaki, a son propre rythme. Mais chaque histoire trouve son rythme. Puis c'est plus lousse hein, comme concept qu'un film comme Le Cercle de Jafar Panahi ou La Ronde de Max Ophuls, où là, t'as vraiment des histoires, puis t'as un relais de narration précis avec un personnage. Ce qui devient un peu lassant dans un film comme Le Cercle, qui est un très bon film, mais on sent tellement la gimmick qu'à un moment donné, la gimmick envahit ou empiète sur le film. J'ai trouvé sur les petites vérités de chaque histoire. Je trouve que le film est comme trop ancré dans sa logique interne. Alors que dans A Touch of Sin, une des forces du film, c'est, vois-tu, il y a des histoires plus longues que d'autres. Il y a peut-être seulement une des histoires qui est reliée directement avec l'histoire qui suit. Il n'y a pas trop de chassés-croisés inutiles, tu sais, de trucs qui reviennent. Parce que ça aussi, des fois, on roule des yeux quand ça arrive dans les films. Ça a tellement été fait. Donc, A Touch of Sin, il y a une grande liberté narrative. Puis c'est un film qui est très efficace par sa portée aussi sociale. Donc, ça a été un très bon film pour moi à voir. Un petit carton jaune, pour utiliser ton expression, ouais. Paul, par contre. Non, mais par rapport à... c'est sûr que quand tu le vois à l'Impérial, genre dans la troisième rangée, tu vois tout, hein, tous les petits défauts. Puis je trouvais que dans ce film-là, c'est un film qui est absolument somptueux, en fait, qui est somptueux dans sa laideur. Un peu comme un Diego Sœur, justement, puis c'est drôle parce que ça offre quand même des petites similarités thématiques. Hein, tu sais, les hommes, souvent contre la société, qui essayent. Bon. Et par contre, donc le film est très beau. Sauf qu'il y a vraiment des problèmes de focus. Je pense que l'assistant caméra a dû être renvoyé ou sera renvoyé ou aura de la difficulté à trouver du travail parce que vraiment, c'est rare que un défaut technique comme ça me turn off à ce point. Mais dans ce film-là, c'est parce qu'on est dans une mise en scène hyper placée. Ça, c'est un sans faute de la part de Miyazaki. Et il y a des petits problèmes techniques qui brisent la magie, en fait, qui te font voir la technique et qui te font un petit peu perdre le rythme du film, qui, comme je disais, on embarque dedans, ça coule, mais ça, c'est le petit bémol, okay. Petit bémol technique pour A Touch of Sin.
J'avoue que le caméraman qui voit ça sur son petit moniteur, ça s'en rend peut-être pas compte, mais lorsque tu projettes sur un écran de cinéma...
En DCP.
Ouais.
C'est ça. Puis on est habitué, hein, le flou, je veux dire, l'esthétique 24, puis tout ça, mais quand c'est à l'épaule, ça se pardonne beaucoup plus. Mais là, on est dans un cinéma très léché, et donc c'est là, en fait, où ça colle pas.
Avec beaucoup de plans fixes aussi, je pense.
Beaucoup de plans fixes, mais vraiment, hein, une mise en scène, puis c'est très dynamique pour selon les standards de Miyazaki. Donc si vous trouviez que ces films étaient peut-être un petit peu trop lents, celui-ci, bon...
Ou peut-être même des spectateurs qui ont jamais vu, en fait, un de ces films, ça pourrait être une bonne introduction, selon toi?
Ouais, ça pourrait être une bonne introduction. C'est pas son meilleur film. Encore une fois, je pense que pour ça, on revient à Plateforme ou à Still Life. Mais c'est vrai, c'est une très très belle entrée en matière, en fait. Puis j'avais jasé à beaucoup de monde qui étaient à l'Impérial, que c'était leur première expérience avec Miyazaki et qui m'ont dit justement j'ai vraiment envie de découvrir ses autres films. Fait que je pense que justement, c'est un très bon tremplin pour ça.
Parfait. Ben, je vais prendre le relais de narration. Dimanche, moi, j'ai eu le grand plaisir de voir le nouveau film de Aung San Suu, Notre Suni, Our Suni. Suni étant le nom de la personnage principale, féminine. Et en fait, c'était le deuxième film que je voyais de Aung San Suu, après avoir été charmé par In Another Country l'an passé, avec Isabelle Huppert.
Ouais, moi, j'avais moins aimé, mais ça, on en a déjà parlé. C'est quoi? C'est comme son sixième long métrage depuis 2010?
C'est ça. Quelque chose comme ça. C'est ça qui est fou. Je suis allé voir sur sa fiche IMDb, parce que je voulais voir un peu les films qu'il avait fait. Puis c'est même pas son premier film depuis In Another Country. Il en a fait un autre en février.
In Another Country, qui était l'année dernière au FNC. C'est ça, vraiment un an, jour pour jour. Donc,
donc depuis 2010, là, dans la nouvelle décennie, là, ben, il a fait 6 longs métrages déjà, ainsi qu'un court métrage. Donc on parle vraiment d'un... Ben, en même temps, c'est pas surprenant quand on voit son cinéma. Je veux dire, c'est pas des films qui exigent... puis il n'y a rien de mal à ça, hein, d'être plus modeste ou d'avoir une approche plus minimaliste. Mm-hmm. Il fait les films que... C'est lui, en fait. Là, c'est son style de cinéma.
Ouais.
Puis d'ailleurs, ça va pas non plus coûter cher, donc ça va être relativement facile de trouver du financement.
Non, exact. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment très impressionnant, mais tu sais, comme à Mané, David Fincher, ça avait pas de sens. Il sortait un film par année, mais c'est des films de 2h30 extrêmement élaborés. Bon, dans le cas de David Fincher, c'est pas nécessairement l'auteur du scénario, donc ça change quelque chose quand tu es seulement réalisateur. Aung Sang-soo en fait est en plus l'auteur de ses propres films. Fait que ça c'est doublement impressionnant. Mais c'est ça, c'est comme son sixième. Puis c'est de quoi ça traite Orsini?
C'est ça, c'est l'histoire en fait d'une jeune étudiante en cinéma qui va. En fait, l'histoire est tellement pas importante, mais bon, la prémisse c'est ça, c'est que c'est une jeune étudiante qui doit aller voir son ancien professeur pour avoir une lettre de recommandation parce qu'elle veut aller étudier aux États-Unis. Et le film se passe peut-être sur 2-3 journées. Et ensuite, elle rencontre aussi deux autres hommes qui ont eu une place dans sa vie. Et finalement, c'est encore une structure en trois, comme dans In Another Country. Chaque homme, finalement, va finir par avouer son amour à Sunny. Ou du moins, son admiration, son affection, etc. Donc, encore une fois, moi, j'étais subjugué par la rigueur et la discipline de ce cinéaste qui a vraiment son propre vocabulaire cinématographique. C'est vraiment quelqu'un qui s'est créé son propre univers et on aime ou on déteste. C'est quelque chose qui est plutôt aride. Moi,
aride, mais parce que In Another Country, c'était très léger. Ça faisait justement ses films d'été. C'est ça. C'est pas trop. Un petit Woody Allen en vacances, quasiment.
C'est ça. Lui, il était beaucoup plus accessible et j'ai beaucoup préféré In Another Country à celui-là. En fait, c'est parce que c'est ça. C'est du cinéma, là, un peu comme Richard Linklater, qui c'est vraiment des films d'acteurs, de dialogue. On est beaucoup dans les subtilités. Puis, d'ailleurs, le cinéaste joue beaucoup sur les variations, sur les petites différences dans les scènes. Et ce qui est le fun, c'est ça, c'est que son procédé... Tu sais, ce cinéaste-là, c'est vraiment approprier le zoom. Et c'est pas n'importe quel type de zoom, c'est pas un snap zoom à la Sam Raimi ou Edgar Wright. Là, c'est vraiment son propre cinéma, tu sais, c'est des longs plans fixes. Il y a quelques plans dans le film là, qui doivent durer sûrement là, autour de 10 minutes. Là. Mais on s'ennuie pas trop parce que, d'un, c'est ça, les dialogues sont très bons, c'est bien écrit, mais c'est que, mettons, il commence sur un two-shot, on voit les deux personnages dans le cadre, de côté, ils sont assis à une table face à face, et mettons, pendant le plan, il va recadrer, s'approcher d'un personnage, après ça, peut-être qu'il va se rééloigner. C'est un peu dur à expliquer comme ça à l'audio, mais quand on voit le film, on comprend très bien, sa technique là, est dans un sens inimitable. Et ce que ça fait, en fait, j'ai réfléchi, c'est deux choses. C'est que ça permet de conserver les performances d'acteurs comme sans coupe, donc un peu, tu sais, avoir vraiment laisser l'acteur...
Le débit, c'est ça, le débit naturel. Ouais.
C'est ça, et ainsi, dans un sens, ça souligne la performance de l'acteur, parce que c'est vraiment des longues scènes qu'ils élaborent. Et en même temps, ça permet un certain dynamisme que le montage peut apporter, mais sans, c'est ça, sans briser le plan. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant, en fait, sa méthode. Et aussi, ce qui est très drôle, c'est que dans pratiquement tous ces films, supposément, j'en ai juste vu deux, mais c'est ce que j'ai compris, c'est que ces personnages boivent beaucoup de soju, qui est en fait l'alcool coréen, un peu comme du saké, j'ai l'impression. Et supposément que, lors de ces tournages, les acteurs boivent réellement de l'alcool, donc éventuellement, tu sais, lorsqu'ils titubent ou etc., c'est finalement, ils sont vraiment, tu sais, peut-être que c'est sûr qu'ils exagèrent et qu'ils en rajoutent peut-être, mais il y a une méthode ainsi un peu... naturaliste, là, je peux dire. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est ça, pour moi, en fait, c'est un peu comme un Ozu, mais de 2013, là, dans le sens que film après film, il travaille sur les mêmes thèmes, il y a vraiment un cinéma similaire, il a développé sa propre technique. Et si on n'aime pas un de ses films, je pense pas que ça vaut la peine de continuer. Mais je pense qu'il touche à quoi de vraiment très humain. Et il réussit vraiment à apporter un cinéma sans artifice qui est quand même rafraîchissant, je trouve. Je me verrais pas me faire un marathon de film de Aung Sang-soo parce que c'est ça. C'est plutôt aride, mais c'est vraiment vraiment charmant, en fait. Tu sais, je suis sorti du film avec le sourire. Encore, c'est un film qui dure un peu moins d'une heure et demie. Puis on passe vraiment un bon temps, finalement, au cinéma. Donc, voilà. Et toi, sinon, t'avais La Grande Bellezza que t'as bien aimé, si j'ai compris.
Ouais, c'est ça, on passe du plus petit film au plus gros film. Hein? On parlait du film le plus ambitieux au Festival de Cannes, et pour cause. La Grande Bellezza, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une orgie. C'est du trop plein de vide aussi, mais pas dans le mauvais sens nécessairement. Ce film-là est voué à diviser, est vraiment voué à diviser le public, parce qu'il t'en jette plein la gueule non-stop pendant 2h25, si bien qu'à un certain point, ça devient essoufflant. Encore une fois, moi, ça m'a vraiment pas dérangé, parce que moi, je parle vraiment d'un coup de cœur, hein, en passant, là, je mets le cadre sur table, j'ai trouvé que c'est probablement... peut-être le meilleur film que j'ai vu présentement au festival, si je peux me permettre. Puis le film de Sion Sono était difficile à battre. Et le film de Giosanke aussi, par le fait même. Bref. Donc, qu'est-ce que c'est La Grande Bellezza? C'est un film réalisé par Paolo Sorrentino. Autour de... Bon, l'histoire est très... Le synopsis, ça fait très déjà vu. C'est l'histoire d'un écrivain qui a 65 ans, donc il commence la mort devient palpable de plus en plus. Et on comprend qu'il a écrit un roman par le passé, il y a 40 ans, donc un roman de jeunesse très fougueux autour de l'amour, d'un amour qu'il avait jadis. D'ailleurs, la femme à laquelle il avait écrit ce roman-là revient un peu la hanter dans des rêves. C'est très fantasmé. Tout le film est un gros fantasme, en fait. Et puis, donc ce personnage-là, finalement, maintenant, est un petit peu à la dérive. Un peu comme le personnage de la Dolce Vita, par exemple, parce que, bon, les comparaisons à Fellini sont inévitables, mais un peu à la dérive, parce que, justement, c'est très de nuit, le personnage, on comprend qu'il se réveille tout le temps passé midi, que chaque soir, il fait la fête, il y a tout le temps des choses, il va au théâtre, mais à force de s'enivrer de Rome, finalement, on devient vide, j'ai l'impression. Et donc, le film dresse aussi un portrait très, très glauque de Rome, sans pour autant en montrer... les laideurs. Je sais pas si je me fais comprendre. Rome est vraiment un personnage qu'on montre vraiment. C'est un film de nuit. Le film ouvre, écoute, la grosse musique électronique dans le tapis. C'est un gros party infini avec des images. Tout est très léché. Tout est très... Même qu'il y a une esthétique pratiquement vidéoclip, mais en même temps qui restait très cinématographique, paradoxalement. Et le film détonne justement de telle façon que moi j'avais justement peur qu'après une introduction aussi vivante, aussi puissante, que le film allait tomber justement dans une histoire banale pour ne jamais se relever. Ce qui est un peu le cas, mais c'est tellement pas grave parce qu'à chaque 5 minutes, on a une nouvelle scène avec une intensité qui accote justement l'intensité de la première séquence du film. Si bien que le film, si j'avais à faire, mettons, une liste des meilleures scènes ou des scènes les plus marquantes que j'ai vues au cinéma, ben dans le top 10, il y en aurait peut-être 5 dans La Grande Bellezza. Un peu comme un Holy Motors, il y a des moments de pur cinéma et de pure beauté. Et tu sais, un des défauts, j'en ai pas parlé au podcast, mais un des défauts que j'avais de Tom à la ferme, par exemple, c'était que par moments, les images étaient tout simplement pas assez fortes pour la musique, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de musique. Hein, Xavier Dolan, on le sait, dans son style, bon, il l'utilise beaucoup. Puis dans La Grande Bellezza, justement, tu vas avoir un chœur, une musique classique ou baroque absolument sublime, doublée d'images absolument saisissantes avec une énergie qui transpire à l'écran ou qui déborde de l'écran, devrais-je dire. Puis finalement, ça crée un tout de pure magie, de pure délice cinématographique, son et images. T'es sollicité de toutes parts. Pour certains, ça pourrait devenir une poutine à l'adresse. Pour moi, j'ai été frappé, c'est un troc pendant 2h25. Même quand le film, à la fin, s'égare un petit peu avec des en théologie ou je sais pas trop, tu sais, d'espèce de rapport à la religion, à la spiritualité qui, à un moment où le film t'a essoufflé depuis 2 heures, peut-être que ça peut devenir lourd dans le dernier tiers. Or, moi, j'ai trouvé que c'est le moment où le film a peut-être encore pris ses ailes pour finir avec un plan de sagesse nouvellement acquise par le personnage. Le personnage qu'on s'identifie pas vraiment parce que la mise en scène nous laisse même pas le temps de se poser avec lui. Comme j'ai dit, la quête est un petit peu peut-être cliché. Or, ça veut pas dire que ces questionnements existentiels sont vains pour autant. On s'y attarde pas de la même façon qu'un film naturaliste va s'y attarder, mais c'est très pertinent. Le propos est très pertinent. La vieille Europe qui périt, qui dépérit le personnage, c'est doublé avec la psychologie du personnage. Non, pour moi, écoute, c'est très chaotique aussi, le montage, c'est très déroutant. Or, je veux dire, si on embarque, c'est une montagne russe, puis c'est somptueux à tous les niveaux. Donc, moi, vraiment, ça a été un gros coup de cœur, mais je serais très... Tu sais, j'aimerais ça, je sais que Samy, s'il m'écoute, salut Samy, je sais que Samy n'a vraiment pas aimé pour les raisons que moi, je l'ai aimé. Donc, j'ai l'impression que pour les mêmes arguments, pro ou contre, on peut défendre ou invalider le film, tu comprends?
OK, ouais, ouais.
On peut, tu sais, j'ai l'impression qu'on peut avoir vraiment, là, j'aurais pu dire la même chose que j'ai dit là, mais en n'ayant pas aimé le film. Donc, je pense qu'il faut vraiment se forger sa propre idée, mais pour moi, c'est un événement cinématographique, rien de moins. Puis, à voir en salle, évidemment, hein, parce que c'est un film, comme je disais, somptueux, qui déborde. Donc,
ça.
Ouais, moi, Je vous le recommande à fond, à fond, à fond, la caisse.
Ça semble être une caractéristique hein, de plusieurs films de l'Italie, tu sais, une espèce de
Oui.
décadence et d'exubérance, là. Ben justement, je
Exactement.
pense aussi que c'est un peu le Fellini là, qui conserve encore son influence, là.
Ouais, ben oui, c'est sûr. Tu sais, comme peut-être qu'au Québec, oui, sans y penser, peut-être qu'on est justement encore influencé par le cinéma direct, tellement ça a été puissant et s'est forgé dans notre identité. Ben, j'ai l'impression que Fellini, c'est une institution. Puis, écoute, ça serait être réducteur de dire que la cinématographie italienne se résume à Fellini, parce que tu sais, je veux dire, il y a eu ô combien de grands maîtres, puis le néo-réalisme, tu sais, de Sica, des Rossellini, puis aussi, bon, contemporain à Fellini, il y avait Visconti, qui avait vraiment son propre style, qui est très différent. Or, c'est vrai qu'une caractéristique qui revient souvent du cinéma italien, c'est juste, c'est l'exubérance, justement, tu l'as dit. Puis ça m'a fait un peu penser justement au Reality de Matteo Garrone l'an dernier. Si on a
Qui
aimé
s'ouvre sur une
la
scène là, c'est
couleur.
vrai, une scène vraiment grandiloquente là, puis alors que
Exact.
le reste du film finalement ça se concentre vraiment sur la psychologie d'un seul personnage.
C'est ça. Ben, imagine, écoute, la séquence d'introduction de Reality, mais quasiment doublée de, tu sais, tout le film en mode nightlife. Donc, c'est à peu près ça, si on peut, si je peux comparer, là. Puis encore une fois, haut en couleur, un peu comme un reality l'a fait, justement. Puis ça fait du bien, ça fait du bien dans un cinéma européen, justement, qui traite de cette décadence-là, de crise économique, mais de façon souvent plus drabe. On dirait que les Italiens, ou du moins les grands maîtres, ou les réalisateurs les plus intéressants, ou qui font leur marque le plus ces temps-ci, le font, mais avec humour et une dose de magie, pourquoi pas. Donc, pour moi, ouais, La Grande Bellezza, The Great Beauty, hein, indeed. vraiment un film à voir, absolument.
Parfait, donc ça conclut notre podcast quotidien. J'aimerais ça qu'on termine l'émission sur une citation de Quentin Dupieux qui était là hier pour présenter Wrong Cops. Il a fait un Q&A vraiment intéressant. J'ai mis quelques citations sur notre compte Twitter. Il dit: Je cherche à fuir tout type de message. Ensuite, les gens peuvent fouiller si ça les intéresse. Je ne sais même pas de quoi je parle. Donc, méditons là-dessus. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andréo. Je suis avec mon collègue
Pascal Plante.